Quelques lectures. On va commencer par le premier livre des Chroniques au chapitre 4. Le premier livre des Chroniques au chapitre 4, on va lire trois versets, les versets 8, 9 et 10. Ensemble, 1 Chronique, chapitre 4, et le verset 8 qui nous dit ceci. Kots engendra Anub et Hatsobeba, et les familles d'Akarchel, fils d'Arum. Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. » On va bien sûr revenir sur cette prière si particulière que Jaébetz a fait monter au Seigneur. On lit aussi dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 16, Romains 16, et nous lisons les versets 7 et 8. C'est une séquence de toute une liste de salutations fraternelles que Paul adresse d'une façon individuelle et personnalisée. C'était dans sa démarche habituelle d'adresser ainsi des témoignages d'affection et d'encouragement nominatifs. Et donc on lit au verset 7 « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. » Et c'est sur cette salutation que je fixerai mon introduction à ce message. Saluez Amplias, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Et ce qui m'a intrigué un jour que je relisais ce texte, ça fait quelque temps déjà en arrière, c'est la signification de ce nom, Amplias. Ça m'a intrigué. Parce que ce nom est porteur d'un message, c'est un témoignage en soi. Amplias, on pourrait le traduire, celui qui a été élargi, celui qui a été augmenté, celui qui a été enrichi. C'est un témoignage merveilleux, témoignage que chaque enfant de Dieu, je pense, peut s'appliquer à sa propre personne, parce que comme le dit un vieux cantique, « J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. » Et chacun pourrait témoigner de ce changement absolument glorieux que l'évangile de Jésus a engendré dans nos vies. Nous étions perdus, le cœur vide, nous étions engouffrés dans des situations complexes, nous étions dans un vide intérieur complètement désorienté, et puis l'évangile a retenti, la lumière de Jésus a brillé, nous l'avons rencontré, nous nous sommes convertis, alléluia, et là, de pécheurs perdus, sommes devenus des enfants de Dieu. Et avec les conséquences que cela engendre, notamment, nous avons été élargis, nous avons été augmentés, nous avons été enrichis. Je m'adresse à des Amplias ce soir, et vous en avez un devant vous. Nous sommes en quelque sorte semblables, comparables à cet homme, et c'est sur cette pensée que je voudrais prêcher ce soir la volonté de Dieu de nous mettre au large. Et de nous mettre au large de tous les facteurs qui sont comme des limites. Ça rejoint la prière de Jaébeth, spontanément, parce que c'est quelque chose qui remplissait son cœur. Il a invoqué l'Éternel, et ce qu'il lui a demandé, c'est pas des banalités, c'est pas des choses secondaires, mais il avait vraiment à cœur ce qu'il demande à l'Éternel, son Dieu. Il invoque le Seigneur, et dans son invocation, il lui demande « Si tu recules toutes mes limites, si tu me bénis, si tu recules toutes mes limites, alors on ne sait pas la suite de sa prière, parce que moi dans ma Bible, j'ai 3 points de suspension, mais on sait la réponse à sa prière. L'Éternel l'exauça. » Et je crois, mes frères et mes sœurs, que nous ne sommes pas exempts d'être confrontés à toutes sortes de limites. Or, la volonté de Dieu, c'est de faire reculer toutes les limites. Il y a tellement de facteurs qui voudraient contraindre, empêcher, enfermer, faire en sorte que notre rayonnement d'enfant de Dieu soit entravé. Or, la volonté de Dieu, c'est de faire reculer nos limites naturelles. Nous les connaissons et nous les reconnaissons. Moi, le premier, je suis tellement limité, mais celui qui m'a sauvé m'a appelé à sa glorieuse liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la volonté de Dieu, c'est que tu ne subisses pas dans une marche lancinante les contraintes qui voudraient t'oppresser et te bloquer et limiter l'épanouissement de ta vie spirituelle, mais c'est de faire reculer toutes nos limites. Alléluia. L'apôtre Paul va écrire à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. C'est quoi des progrès, sinon des limites qui reculent? Oui ou non? Un progrès, c'est quelque chose que hier, je n'étais pas capable de faire, et aujourd'hui, je le fais, parce que Dieu m'a aidé. Je fais un progrès, et moi, je veux progresser toujours. Et toi? Aussi, c'est possible, et ça rejoint le cœur de Dieu et sa volonté pour nous. Jusqu'au dernier pas de ma marche chrétienne, je veux encore progresser. Autrement dit, voir certaines limites reculer par l'assistance du Saint-Esprit et aussi par l'impact bénissant de la parole de Dieu. Dieu veut ce soir intervenir dans ta vie pour faire reculer tes limites. Donne-leur le nom qui leur correspond. Quel que soit leur nom, Dieu a le pouvoir de te libérer et de te mettre au large. Gloire à Dieu. J'ai scindé très basiquement ce message en 2 parties. Nos limites personnelles ou intérieures et nos limites extérieures. Parce qu'en fait, c'est dans ces 2 dimensions que nous trouvons toutes ces entraves. Et les premières, certainement peut-être les plus complexes, les plus difficiles, les plus problématiques, c'est nos limites intérieures. Il y a un premier domaine, frères et sœurs, dans lequel le Seigneur veut faire reculer nos limites, c'est dans le domaine de notre foi. Les limites de notre foi. Gloire à Dieu. C'est un miracle d'avoir la foi. Parce que la foi, un jour, est venue par la parole de Christ. C'est un miracle, gloire à Dieu, hein. Mais cette foi va avoir besoin de dépasser un certain nombre de limites. Dès l'instant où la foi vient dans mon cœur, j'entre à l'école de la foi. Après l'avoir suscitée en nous, Dieu veut la faire grandir. Amplias, celui qui a été élargi, augmenté, enrichi, alléluia. Et plus ta foi augmentera, plus ses performances augmenteront aussi. Amen, hein, gloire à Dieu. Donc, c'est ce qu'on voit, les évangiles sont remplis de mises en situation que le Christ a utilisées comme des leçons de foi pour mener ses disciples plus loin, encore plus loin, à repousser les limites de leur foi. Gloire à Dieu, il vient d'enseigner. Alors, moi j'aurais bien voulu être là, assis sur le versant de la colline, à écouter l'enseignement de Jésus. Parce que là, 100% parole de Dieu. Quelle qualité d'enseignement. Il n'y avait rien à trier. Nous, nous prions, nous prédicateurs, avant une prédication, nous demandons au Seigneur, permet qu'il n'y ait pas de paille qui se mélange au froment hein, dans la prédication, mais bon, il y en a toujours un petit peu. Mais Jésus, c'est 100% parole de Dieu. Quel enseignement! Il n'y en a pas de comparable. Les disciples reçoivent l'enseignement, et après l'enseignement, il y a les travaux pratiques. Parce que c'est beau de recevoir l'enseignement, mais après, il y a le terrain. Et Jésus arrête son enseignement, se tourne vers Pierre, dont la barque était là, un petit peu balancée par les clapotis, et Jésus dit, tu me prêtes ta barque? J'aimerais y monter, bien sûr. Jésus monte, Pierre monte, et écarte-toi un peu de la rive. Et de là, il enseigne encore, et sa voix est portée par l'eau, il y a une sorte de phénomène acoustique qui amplifie le son, n'est-ce pas? Et à un moment donné, Jésus dit, maintenant, avance en pleine eau et jetez vos filets dans la mer. C'est les travaux pratiques. Et spontanément, parce que vous savez que Pierre, lui, il démarrait au quart de tour. Seigneur, mais... nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, même pas une sardine dépressive, suicidaire, rien. On n'a rien pris, Seigneur. On est épuisé. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Ah, ça me renseigne sur l'utilisation que Pierre fait de tout l'enseignement qu'il vient d'entendre. Parce que tu viens de nous enseigner les choses qui concernent le royaume des cieux. Et parce que ta parole est venue encourager ma foi sur ta parole, pas sur mon expérience de pêcheur professionnel, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est la première pêche miraculeuse. Gloire à Dieu, hein? Eh bien moi je dis que là, dans cette expérience, les limites de la foi de Pierre ont reculé. Amen. Et si, à ton tour, en considérant ta limite, tu disais au Seigneur, « Seigneur, sur ta parole, je m'attends à vivre une expérience qui va me permettre de dépasser ma limite. » Quel que soit le nom, encore une fois. Première pêche miraculeuse. Quelque temps plus tard, il y a la deuxième pêche miraculeuse, qui n'est pas un copie-coller de la première. La deuxième pêche miraculeuse va permettre de faire encore un peu plus reculer la foi, les limites de la foi de Pierre. La deuxième pêche miraculeuse est différente déjà par son contexte, parce que il y a très peu, les disciples ont vu leur maître mourir sur la croix, amaigri, déchiré par les coups de fouet, couronné d'épines, percé par les clous. Il meurt. Ils l'ont vu être décroché de la croix. On l'a mis dans un tombeau. Ils l'ont vu d'une manière irréfutable. La mort de Jésus a été pour eux un coup d'arrêt brutal, car ils n'avaient pas compris encore les choses. Au point que Pierre va entrer dans une spirale rétrograde, il va retourner à sa profession. « Moi, je m'en vais pêcher. » On a rêvé 3 ans. Mais là, c'est l'atterrissage douloureux. Il est mort. On a même mis une immense pierre devant sa tombe. « Je m'en vais pêcher. » Le contexte est différent. Il est profondément démoralisé. Il est vidé de toute sorte de ressources psychologiques naturelles. Il est dans un état de faiblesse innommable. Et là, le scénario, il pêche, il jette le filet toute la nuit, sans rien prendre. Et une voix se fait entendre du rivage. « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» C'était surtout la question qu'il ne fallait pas poser. « Non. Jetez le filet sur le côté droit de la barque. » Nouvelle technique. Parce qu'ils jetaient tous sur le côté gauche, puisqu'ils étaient droitiers, ils se fiaient sur leurs bras musclés pour jeter sur le côté gauche, donc ils se fiaient sur leur énergie et leur force humaine. Et là, Jésus va innover. Mais il y a un enseignement. Jésus semble leur dire, pêchez sans vous appuyer sur votre force naturelle, jetez sur le côté droit. Et j'imagine, c'est comme si j'y étais, les disciples qui jettent comme des débutants, ils n'avaient jamais fait avec le bras gauche. Avant, avec le bras droit, le filet partait, il s'envolait comme un boomerang, là, c'était majestueux. Mais là, c'était un jet piètre, vraiment pas glorieux, des débutants. Le filet, il tombe là, un peu comme ça, en vrac, là, à 3 mètres. Sauf que, quand ils veulent le retirer, il est plein de poissons. Tellement plein qu'ils ont voulu les compter. On sait le nombre précis, tellement ils ont été ébahis par cette expérience. Et les limites de leur foi reculent encore un peu. Et je crois que expérience après expérience, la volonté de Dieu, c'est que les limites de notre foi reculent. Amen. Et non pas le contraire. Parce que quelquefois, ce que j'observe par au bagne, c'est que les années et l'ancienneté et la longueur de temps où on marche avec le Seigneur, au lieu de permettre le développement de notre foi, ça l'ankylose, ça l'engourdit, au point qu'une vieille monitrice d'école du dimanche, un mois de septembre où je faisais la première réunion de moniteurs de la rentrée, et je leur disais, frères et sœurs, on va prier. Cette année, nous voulons que tous les enfants de l'Église donnent leur cœur à Jésus. Nous refusons l'idée qu'un seul de nos enfants ne soit pas sauvé. Et l'écho encourageant que la chère sœur a dit, ça résonne encore, si seulement la prière pouvait servir à quelque chose. Voilà, les limites de la foi, au lieu de reculer, avaient plutôt grignoté son terrain. Elle était comme enfermée par une invisible prison d'échec et de pessimisme Je prie pour qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Je prie pour que Dieu vienne à mon secours. Comme l'a dit ce père, je crois, mais en même temps, je sens que j'ai besoin que les limites reculent. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que quelqu'un ce soir pouvait prier le Seigneur dans ce sens? Dire, Seigneur, mais bien sûr, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es le Dieu tout-puissant et qu'une parole de ta bouche suffit pour opérer le mien. Je le crois dans l'absolu. Je le crois théologiquement, doctrinalement, bibliquement. Mais quand je suis confronté à mes combats personnels, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité et fais reculer les limites de ma foi. Et Dieu exaucera ta prière comme il a exaucé celle de Jaébès. La prière de Jaébès a été agréable à Dieu parce que ça correspondait à une sagesse inspirée et conforme à la volonté de Dieu. Je prie pour qu'ensemble, vous et moi, l'Église que nous composons, notre foi prenne l'ascendant sur les limites nombreuses qui existent, et bien que toutes les limites reculent. Sous l'impulsion de la parole de Dieu que nous lisons, que nous soulignons, que nous écoutons prêcher, et sous l'action du Saint-Esprit, laisse le Seigneur faire reculer les limites de ta foi. Amen. Gloire à Dieu. C'est le premier domaine dans lequel Dieu veut faire reculer nos limites. Un second domaine, si vous le permettez, et je vais l'introduire par une lecture, elle est un petit peu longue, mais alors quel récit fort et riche d'enseignements. Ézéchiel chapitre 37, vous connaissez certainement ce passage, mais il nous enseigne dans le sujet qui nous intéresse ce soir. Ézéchiel 37, verset 1. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » C'est lugubre. « Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'éternel esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Oui, parce que Dieu parle, mais aussi il agit. Amen. Quel récit, quel tableau, quelle scène, quel événement extraordinaire. On ne va pas entrer dans trop de détails pour ne pas être trop long, mais je commencerai par un constat, que le prophète a pris le temps de bien vérifier. Il a inspecté tous ses os et son diagnostic, ils étaient complètement secs. On ne pouvait pas faire pire. Et après le constat, la question de Dieu, comme un défi. Alors selon toi, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et la réponse que Ézéchiel fait montre qu'il était dans une sorte de dilemme. Théologiquement, oui, mais alors là, sec de chez sec, Seigneur, tu le sais. Quelquefois, on dit « Dieu sait tout », et c'est vrai, Dieu voit tout. Seigneur, tu connais, hein, tu connais. Quelquefois, ça nous rend service, hein, ces petites expressions comme ça. Hein, c'est comme le rugbyman qui tape en touche, là. Hein. Alors, Dieu va s'employer à relever le défi. Et il fera une relation directe avec l'état moral, spirituel, intérieur du peuple d'Israël, dont le discours était très éloquent. Nos os sont desséchés. Ouais, quand ils se croisaient entre eux, au lieu de dire Alléluia, Dieu est grand, disaient nos os sont desséchés. Ça fait du bien, hein. Ça met le moral, hein, ça. Nos os sont desséchés, c'était des complaintes, des gémissements, des confessions de souffrance, mais poussées à l'extrême. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Voilà dans quel état moral et spirituel se trouvait le peuple. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu se plaira à intervenir favorablement au niveau de ton état intérieur, ta vie intérieure, ton ressenti. On peut tous passer, on passe tous par des dispositions très très variables, hein. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de honte à traverser des périodes peu glorieuses. Vous savez, quand Jacob a appris la nouvelle que son fils était mort, waouh, ça a mis une limite, hein, brutale. Sa vie s'est arrêtée, terminée. Et il a été plongé dans un état de prostration. Tout était bloqué. Ça l'a figé complètement. L'histoire s'est arrêtée. Devant cette nouvelle dramatique, il peut se produire des événements forts qui viennent nous bousculer, nous violenter, nous brutaliser. Il y a des choses qui peuvent ainsi impacter douloureusement notre être intérieur. Et ça vous met une limite. Mais Dieu a eu compassion de Jacob. Et il a permis que une série de démonstrations viennent le convaincre que son fils Joseph n'était pas mort, mais qu'il était vivant, non seulement vivant, il était le deuxième personnage de l'Empire égyptien. Et la Bible nous dit que le cœur de Jacob se réchauffa. Moi, je prie pour que le cœur de quelqu'un se réchauffe ce soir. Amen. Parce que peut-être à cause d'une circonstance, d'une mauvaise nouvelle, d'un échec, de quelque chose de très très douloureux, eh bien, intérieurement, tu dis toi aussi, mais mon espérance, elle est détruite. J'ai le moral par terre. Eh bien, Dieu ne te laissera pas dans cet état-là. Il nous dit « prophétise ». Et je prie pour que les prédications que vous entendez, peu importe les prédicateurs, mais en parlant des messages, ça soit comme des prophéties dans ce sens que ça soit parole vivante de Dieu, parole inspirée. À chaque réunion, il y a un message que Dieu a programmé parce qu'il correspond à des besoins personnels cachés, mais que Dieu voit, et pour lesquels il veut intervenir. Alors mon frère, ma sœur, ne dis plus que ton espérance est détruite, mais permets au Seigneur de souffler de son Saint-Esprit dans ta vie, parce que la conséquence immédiate, quand l'Esprit est entré en eux, c'est qu'ils sont devenus ou redevenus vivants. Moi, je prie pour qu'on soit vivants. Amen. Des chrétiens vivants, une foi vivante, une louange vivante, pas religieuse raplapla, mais un témoignage vivant, convaincant, enthousiaste, des chants vivants, une marche chrétienne vivante, pas que le dimanche de 9h45 à 11h45, mais le dimanche, le lundi, de janvier à décembre, alléluia, du jour du baptême jusqu'au jour de l'enlèvement. Une marche vivante, et ça, c'est possible, ça, c'est la volonté de Dieu, et je dois saisir cela par la foi. Et que tous les facteurs qui voudraient être comme des limites à la vie abondante de Dieu en moi soient reculés, et que nous ressemblions ensemble à cette armée debout, nombreuse et conquérante. L'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Oh, que ça soit notre expérience ce soir. Alléluia! Qu'ensemble, vous et moi, nous reprenions vie! Alléluia! Gloire à Dieu! Et c'est possible, je le répète, c'est tellement beau, tellement merveilleux. Dieu veut faire reculer toutes les limites qui contraignent et oppressent ton être intérieur. Il y a un troisième domaine dans lequel Dieu veut faire reculer toutes les limites existantes. Je vous lis simplement dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 8, 9, 10. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Gloire à Dieu. Le troisième domaine que je voudrais mentionner, c'est celui de notre connaissance et de notre intelligence. Quelqu'un dira, oh, je suis vexé, parce qu'on sous-entend que j'en manque. Non, c'est pas ça, mais honnêtement, moi le premier, je manque. Si c'est pas Dieu qui m'éclaire, je suis pas intelligent. J'ai besoin qu'il recule les limites, qui rétrécissent ma connaissance. L'apôtre Paul va le rappeler aux Corinthiens, en leur disant, nous connaissons en partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sait tout? Qui a parmi nous la connaissance infuse et parfaite? Moi, j'aimerais connaître l'animal rare, là. Hein. Moi, vraiment, je crois que vous et moi, nous avons besoin, dans le domaine de la connaissance, mais la connaissance, pas l'érudition, mais la connaissance de Dieu et l'intelligence de Dieu, eh bien, d'aller de limite en limite, de progresser, que les limites reculent. Alléluia. Que notre connaissance juste, éclairée, puisse être augmentée, comme en Pliasse. Élargie, augmentée, enrichie, alléluia. Et Dieu veut le faire. Afin, dit l'apôtre Paul, que nous ayons le discernement des choses les meilleures. Un jour, si Dieu permet, je prêcherai sur le discernement des choses les meilleures. Mais rien que là, j'aimerais mentionner cette bénédiction. Dieu veut nous donner aux uns aux autres le discernement des choses les meilleures qui résultent du fait que notre connaissance et notre intelligence va augmenter et s'enrichir par son intervention divine. Alléluia. Paul, lui, il en faisait un sujet de prière prioritaire, Paul priait et Dieu faisait. Et il donnait. Moi, je crois que les gens les plus intelligents au monde, ça devrait être les chrétiens. Personne dit amen. Enfin, moi, je me dis amen à moi-même. C'est, déjà, c'est ça. Hein? Mais bien sûr, puisque le Dieu parfaitement sage et intelligent nous habite par son Saint-Esprit. Nous avons le bénéfice de l'éclairage de sa bonne parole. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, il en résulte que nous manifestons une connaissance et une intelligence. Et il n'était pas très, très vieux, Daniel, dans son exil. Mais ils n'ont pas mis longtemps pour s'apercevoir que Daniel avait une intelligence supérieure. Oui ou non? Eh oui, parce que, qu'est-ce que vous voulez? Dans le contact, je dirais, le triple contact quotidien qu'il avait avec son Dieu, sa connaissance et son intelligence étant éclairées d'en haut, mais il transmettait et il exprimait cette supériorité, pas avec un esprit de supériorité, mais il exprimait cela, une sagesse qu'on ne trouvait pas parmi les plus sages de l'Empire. Ils n'ont pas mis longtemps pour s'apercevoir de cela. Il n'était pas très vieux, Samuel. Il n'était encore qu'un enfant. Mais tout le peuple d'Israël a reconnu officiellement que la parole de Dieu était avec Samuel. Il n'était pas vieux, hein? Mais il y avait quelque chose de supérieur. Parce que cet enfant, quand Dieu lui faisait la grâce et l'honneur de lui parler, ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Il recueillait la parole de Dieu. J'espère que personne ne fait tomber sur le carrelage quelques paroles qui sont rapportées, hein, mais il recevait. Et qu'est-ce que vous voulez? Tout jeune, tout enfant ou adolescent, je ne sais pas, ça lui a donné d'atteindre une dimension supérieure, nettement supérieure à la moyenne de l'intelligence au milieu du peuple. Quel témoignage! C'est pas lui qui a dit « Je suis prophète ». Non, c'est les autres qui ont rendu témoignage. La parole de Dieu est avec lui. Hein. Eh bien, que le Seigneur nous visite aussi dans ce domaine et fasse reculer les limites de notre intelligence et notre connaissance. Et puis, quatrième domaine, et là, j'arrête là, les limites concernant notre capacité d'aimer. Amen. C'est un domaine fondamental. C'est le commandement par excellence. Ah. Tu aimeras ton Dieu sans limite, puisque c'est de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il n'y a plus de limite. Tu l'aimeras comme ça. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dira que c'est dans ces deux commandements qui n'en font qu'un, finalement, que se résume le royaume de Dieu. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai des limites dans mes capacités d'aimer. Ah bon ? Je suis obligé de le reconnaître. Ben oui. Moi, quand je lis les quatre dimensions de l'amour de Christ, sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur, dans les quatre dimensions, j'ai des progrès à faire. Dans les quatre dimensions. Mais je les ferai. Parce que c'est ma prière et parce que Dieu en a le pouvoir. Dieu veut faire reculer tes capacités d'aimer. Amen. L'amour qui unit les chrétiens, ce n'est pas simplement de la sympathie, une concordance d'idéal, une affinité de caractère et de personnalité, une communauté générationnelle. J'ai entendu dire que dans certains pays, ils font des églises d'ados, des églises de jeunes, des églises de vieux. Mais ça, pour moi, ce n'est pas comme ça que je comprends l'amour de Dieu. Parce que pour moi, l'amour de Dieu est tellement merveilleux, parfait, que jeunes et vieux se réjouissent ensemble. Oui ou non ? Gloire à Dieu. Et c'est facile à prêcher. Hein. Mais dans les travaux pratiques, ne soyons pas surpris que Dieu nous place dans certaines situations qui vont nous amener à expérimenter cela. Dire, Seigneur, recule les limites là, parce que là, tout seul, là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais toi, tu peux reculer les limites et me rendre capable de bénir, de patienter, de supporter, dans le sens de soutenir, pas de supporter difficile, non, de soutenir, d'espérer, toujours en un revirement positif. Recule les limites de mes capacités d'aimer. Seigneur, combien de fois, cette fois, pour le pardon, cette fois, et déjà Pierre, il pensait que cette fois, c'était un record très au-delà de ses capacités. Hein. Et Jésus dit, non, je ne te dis pas cette fois. Alors, ça a commencé à rassurer Pierre. Alors, quand même, moi aussi, je pensais que c'était trop. Non, je te dis 70 fois cette fois. Alors là, ça l'a édifié, quoi, tout de suite. Hein. Il a compris qu'il avait besoin de l'aide de Dieu pour reculer les limites. Dans le pardon, dans la patience, dans l'intercession. Comment se fait-il que pour certains bien-aimés, ça m'est facile d'intercéder, et pour d'autres, il me faut le secours de Dieu? Eh bien, même si c'est le cas, je ne veux pas qu'il en soit ainsi durablement. Je veux prier la prière de Jaébès. Fais reculer les limites, toutes les limites, même celles qui concernent mes capacités d'aimer, Seigneur. Fais reculer. Et Dieu a exaucé sa prière. Que Dieu soit béni et que nous puissions vivre ces choses. Moi, quand je lis certains textes, des classiques parmi les classiques, hein, regardez ce texte. Que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Le samedi, quand il faut passer la peinture pour les travaux de l'église, par exemple, hein, mais bon. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Là, les limites, elles ont reculé. Hein. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, pas la nôtre, hein, celle de Dieu. Hein. La nôtre, elle n'existe plus. Hein. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et bien, quand je lis un texte comme ça, j'en fais ma prière personnelle. Le Seigneur, là, tu mets le doigt sur pas mal de limites personnelles, sur mes capacités d'aimer. Alors, recule toutes ces limites, Seigneur, et que je puisse aimer de ton amour merveilleux. Je termine en citant simplement, parce que c'est vrai que la première partie m'a pris beaucoup de temps. La deuxième partie, ça concerne l'extérieur, les limites extérieures. Les limites extérieures, je voudrais simplement en citer deux, mais vraiment comme ça, sans commentaire pratiquement, en citer deux. Les temps que nous vivons, et que l'apôtre Paul annonce comme des temps difficiles, vont susciter forcément des limites, de l'opposition, des difficultés. Les temps que nous vivons sont des temps d'impiété, de corruption, des temps qui ressemblent de très près à la génération de Sodome, de Gomorre, n'est-ce pas ? Certaines lois sont dans les tiroirs, dans les tablettes, selon lesquelles bientôt, eh bien, il sera interdit d'apporter la prédication de l'Évangile avec liberté. Il va y avoir certains aspects de l'Évangile qui deviendront des points très, très surveillés par les autorités. Il y a des limites dans ces temps difficiles. Eh bien, lorsque les premiers apôtres ont rencontré des limites semblables, menaces, interdictions, coups, acte 4, ils se sont rassemblés avec tous les chrétiens et ils élevèrent ensemble la voix à l'Éternel. Et Seigneur, tu vois leurs menaces, eh bien, devant leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec force et qu'ils se fassent des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et ils ont tous été remplis tout à nouveau du Saint-Esprit, et ils ont continué à prêcher l'Évangile. Résultat, c'est que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est grâce à cette intervention de Dieu qui a reculé les limites de l'hostilité, de la persécution, pour faire briller la lumière de Christ. Amen. Les limites extérieures. Nous ne vivons pas dans une société marquée dans son ADN par le christianisme. C'est fini ça, terminé. Puisque les intentions de certains penseurs contemporains sont, je reprends leur terme, de déconstruire l'individu pour faire comme une refonte mentale. Donc, il y a une intention de détruire profondément dans les gènes tout rapport avec la foi chrétienne. Bien, c'est les temps difficiles. Et alors, allons-nous craindre, redouter, subir ? Non, nous prions la prière de Jaébès. Ton Seigneur recule toutes les limites, et même celles de l'opposition à la foi. Et qu'il se fasse encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. Que des cœurs soient convaincus de péché. Que Dieu soit béni. Et puis, en citant simplement, dans les limites extérieures, il y a les Jéricho. Les Jéricho, Jéricho qui était comme un verrou, infranchissable, et qui peut très bien symboliser l'opposition diabolique. Et le diable sait que son heure approche, et bien sûr, il déploie toutes ses énergies furieuses pour empêcher la propagation de l'évangile. Et ce genre d'opposition ne se gère que par les armes spirituelles, les armes de Dieu, que Paul appelle les armes de la lumière. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas des pétitions, ce n'est pas des réclamations, ce n'est pas des manifestations, mais c'est le peuple de Dieu qui se mobilise pour invoquer le nom de Jésus, car il y a un nom que l'ennemi connaît et reconnaît, c'est le nom de Jésus, son vainqueur. Lui est vaincu, Christ est vainqueur, et le fait d'invoquer le nom de Jésus fait reculer les limites, que Dieu soit béni. Vous voyez ?